Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était il y a 6 jours à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris. Le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné et décapité tout près de son collège. Ce nouvel attentat terroriste islamiste caractérisé, selon les mots du président de la République, a une fois de plus choqué et provoqué des sentiments variés, sidération, tristesse, colère, peur aussi, mais il a aussi été à l'origine d'une promesse de l'exécutif. Cette fois-ci, on ne va pas s'en tenir à des mots, mais il y aura des actes contre un ennemi clairement désigné et qui sera affronté sans faiblir. C'est la promesse faite par le président et le gouvernement. Et maintenant, comment combattre l'islam radical en France? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont avec nous ce soir. Dans ce studio, il y a Guillaume Fard, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et également François Thuillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien officier des services antiterroristes, chercheur associé au Centre d'études sur les conflits, auteur du livre « La révolution antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous » et « Homo terrorismus » aux éditions Temps Présent. Et en ligne par téléphone, Anne-Clémentine Larocque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'islamisme, chargée de cours à Sciences Po, auteur d'un que sais-je, Géopolitique des islamismes, c'est aux presses universitaires de France, et l'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, toujours au PUF. On va le dire d'emblée, on a voulu laisser passer le temps de l'émotion, des émotions et de l'hommage avant d'évoquer ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des suggestions ont été lancées tout au cours de la semaine dernière. On va essayer de faire le tri au cours de cette émission. Tout d'abord, on l'a beaucoup entendu depuis vendredi, mais il faut aussi dire qu'on l'avait beaucoup entendu avant. Cette fois, on va passer de la parole aux actes. Est-ce que quelque chose a vraiment changé, François Thuillier?
Je crois que quand un pays, comme on le voit en ce moment, glisse doucement vers la guerre, et fût-ce contre un ennemi intérieur, puisque c'est la rhétorique actuellement utilisée, il y a 2 préambules à respecter pour avoir une chance de vaincre. La première, c'est de bien connaître l'ennemi. Je crois qu'il y a quelques doutes là-dessus, faute d'avoir écouté suffisamment tôt les chercheurs et les sciences humaines et sociales. Et l'autre préambule, c'est de bien se connaître soi-même. Et là, je crois qu'il y a un doute aussi avec les débats qui tournent à l'heure actuelle autour de la laïcité, de la République, la crise de la démocratie. Donc il y a un doute aussi sur ce que nous avons à défendre, justement, dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Et ces deux préambules n'étant pas respectés, je crois que on se dirige tout droit, sinon vers une impasse, en tout cas sans doute vers une forme d'impuissance contre ce terrorisme moderne qui a montré à nouveau son visage il y a quelques jours.
Donc selon vous, il faut des clarifications. Guillaume Fard, on a entendu que cette fois, ça ne serait plus jamais comme avant. Est-ce que vous y croyez, tout simplement?
Si je reprends votre question précédente, qu'est-ce qui a changé? À vrai dire, la menace. La menace n'est pas moins intense. Elle a changé de nature. Il y avait, notamment entre 2012 et 2018, 2000 de nos compatriotes qui sont partis en zone syro-irakienne avec pour objet de frapper la France depuis l'extérieur, notamment de participer bien sûr aux opérations terroristes sur place, mais aussi de frapper la France. Et donc il y avait cette menace de terrorisme qu'on appelait terrorisme projeté, c'est-à-dire cette idée d'attentats relativement sophistiqués, préparés en partie depuis l'extérieur de nos frontières et qui ont conduit un peu aux attentats du 13 novembre 2015, des terrasses, du Stade de France, du Bataclan. Maintenant, l'État a pris ses dispositions et effectivement, il est beaucoup plus difficile de se rendre en zone syro-irakienne et puis le combat contre Daesh a fait que Daesh s'est affaissé territorialement, à l'exception peut-être d'une poche au nord-ouest de la Syrie, vers Idlib. Les organisations terroristes djihadistes sur place ont été quand même considérablement amoindri. Et donc, reste ce terrorisme que le président de la République, après l'attentat de Trèbes en mars 2018, qualifie d'endogène. Il pose ce qualificatif. Et donc, cette fois-ci, l'ennemi ne menacerait plus depuis l'extérieur, mais se trouverait bien à l'intérieur du territoire. Et c'est peut-être ça qui a changé et qui fait que des individus, dans un laps de temps assez court, avec peu ou pas de moyens, décident de passer à l'acte, se radicalisent et vont frapper. Et avec peut-être aussi cette distinction, si vous me permettez, permettez, qui explique aussi le changement, une distinction aussi de doctrine entre Al-Qaïda et Daesh. Vous savez, Al-Qaïda, c'est quand même une organisation qui était assez hiérarchisée, une propagande assez austère, quasi exclusivement en arabe, et qui en plus souhaitait que les combattants se soient entraînés en son sein, notamment en zone afghano-pakistanaise. À partir du moment où il y a cette révolution un peu idéologique, les écrits d'Al-Souri et puis Daesh, il y a cette idée qu'au fond, d'abord la propagande, elle va se diffuser de façon virale depuis les réseaux sociaux, elle est accessible en français pour les francophones, et il y a une sorte d'ubérisation. Alors Gilles Kepel parle de tourisme réticulaire, mais c'est l'idée qu'au fond, il y a cette déconcentration qui fait que des individus peuvent se raccrocher à une idéologie et recevoir une forme d'adoubement ex post, ou en tout cas après qu'ils ont accompli leur méfait. Donc ça change la nature, et ça rend cette menace beaucoup plus diffuse, beaucoup plus difficile à anticiper, à appréhender. Donc s'il y a un changement, c'est probablement celui-là.
Anne-Clémentine Larocque, je rebondis sur l'un des deux éléments qu'avait évoqué François Atulier. Est-ce qu'on connaît vraiment bien l'islamisme radical qui menace la France aujourd'hui?
Bah écoutez, je crois que pour parler de l'islamisme radical, il faut d'abord parler de l'islamisme, hein, qui est un concept, une idéologie dans laquelle on met beaucoup de choses aujourd'hui, hein, avec des distinctions très fortes, hein, sémantiques à mettre en place. La différence entre les frères musulmans, les salafistes, les salafo-djihadistes, les takfiristes. Ah bon, la liste est assez longue, et je pense qu'en fait, on veut manquer de nuance sur ce sujet, on veut le simplifier. Il n'est absolument pas simple, il est complexe dès les origines. Les origines sont lointaines, elles sont historiques, elles sont du XXe siècle pour certains, elles peuvent remonter bien avant pour d'autres, si on parle du handbalisme par exemple, et ensuite du salafisme. Et je pense véritablement que cette idéologie, elle est aujourd'hui mentionnée par le politique, c'est vrai, mais est-ce qu'elle est vraiment expliquée? L'islamisme radical, c'est finalement le symptôme le plus intense, le plus barbare, le plus visible de ce qu'est l'islamisme, qui est un projet, hein, un projet, un système de pensée qui, manifestement, s'oppose au système de pensée occidental.
François Tullier, comment vous diriez que l'idéologie des islamismes radicaux évolue? Les islamistes radicaux, pardon.
Je crois qu'il y a vraiment un débat autour de l'islam, en tout cas dans le fait d'associer le crime terroriste à cette religion fait encore débat dans la mesure où le lien est quand même relativement sujet à discussion. Il me semble que, en tout cas, d'ores et déjà, les universitaires, en tout cas les sociologues, les anthropologues d'une part, et les musulmans eux-mêmes dénient tout lien avec cette religion. Donc, concernant les sociologues, ils disent que la potentialité violente d'un individu, d'un criminel, l'homo criminalis en quelque sorte, précède le passage par l'islam, que l'islam ne vient que dans un second temps comme une justification du criminel à ses yeux et aux yeux de sa communauté, donc avec un rôle relativement limité de la religion dans les déterminants du passage à l'acte. Et puis les musulmans eux-mêmes considèrent que dans leur immense, j'allais même pas dire majorité, unanimité, considèrent, c'est-à-dire de l'islam consulaire, du CFCM jusqu'au salafiste, en passant par les frères musulmans, considèrent que ces actes n'ont rien de musulman. Donc il y a déjà un problème de nommer les choses et de faire ce lien est déjà en soi un acte qui pose débat et qui, à mon sens, venant des services, n'aide pas vraiment à l'efficacité de la lutte antiterroriste.
Guillaume Fard, est-ce que ce discernement qu'appelait de ses voeux François Tullier, il est perceptible dans l'action qui est menée depuis 6 jours?
En tout cas, ce que l'on voit depuis 6 jours, c'est qu'on a un individu, enfin le nommé, hein, Abdullah Kandzorov, qui est passé violemment à l'acte. Il a assassiné très sauvagement un enseignant, Samuel Paty, après s'être radicalisé de façon assez rapide. Les premiers éléments de l'enquête, selon nos informations, montrent quand même que dans les mois qui ont précédé, notamment à partir de juin-juillet, il avait changé son attitude. Il avait une pratique religieuse beaucoup plus rigoriste. Il ne souhaitait plus saluer les femmes, il s'était renfermé, il s'était replié sur une pratique intense du sport. Il avait un compte Twitter, Tchétchène 270 Al-Ansar, depuis lequel il reroutait de la propagande djihadiste, depuis lequel aussi il se mêlait de sujets de société, il prenait part à des controverses, il invectivait le président de la République, notamment en raison du projet de loi séparatisme qui va être débattu le 9 décembre. Et effectivement, il y a tout ce processus qui ensuite le conduit au passage à l'acte. Et on note surtout que, en même temps qu'il intensifie sa pratique religieuse, il recherche des causes. Il recherche des causes à défendre. Il va contacter des personnes de confession musulmane qui ont déclaré, notamment sur les réseaux sociaux, avoir été humiliés en raison de leur religion. Et il va vouloir devenir leur bras armé. C'est notamment comme ça qu'il procède. Et donc, il va finir par s'arrêter sur la cause précisément, ou la mise en cause de Samuel Paty, contacter ce parent plaignant en lui disant vouloir être un peu son bras armé d'une certaine manière, et il va s'arrêter là-dessus, il va agir, et après avoir agi, il va revendiquer, et fait notable, il va aussi vouloir chercher une forme d'adoubement à travers un contact, et ce sont nos dernières informations, un contact avec un homme qui est en zone syrienne, qui est djihadiste, qui est russophone, et il va lui demander une forme de reconnaissance de son acte, en voulant que finalement il l'assimile à un de ses pères. Et pour lui, c'est très important. Donc, on voit ces dérives-là, et on voit à quel point les réseaux sociaux sont un accélérateur. Et dans l'antichambre, il y a ce moment d'une pratique plus rigoriste de la religion, et qui fait que oui, le ministre de l'Intérieur désigne aussi le salafisme comme étant l'ennemi, parce que étant une pratique plus rigoriste, il est une forme de d'antichambre du passage à l'acte.
Anne-Clémentine Larocque, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du salafisme, parce qu'on entend beaucoup de choses, hein. Il y a du salafisme qui est dit quiétiste notamment, et qui ne mène pas forcément au passage à l'acte.
Tout à fait. En fait, le salafisme, comme on l'entend aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très peu défini finalement par tout le monde. Le salafisme, c'est une idéologie qui se base effectivement sur le discours fondamentaliste, c'est-à-dire qu'on va prendre le Coran, la Sunna, et on va rester exactement sur une interprétation, je dirais, à ras, de ce qui se trouve dans ces deux documents, dans ces deux livres saints pour les musulmans. Et justement, la transition se fait au moment où le wahhabisme va se développer au XVIIIe siècle, avec effectivement un personnage, Ibn Abd al-Wahhab, qui rencontre Ibn Seoud dans un territoire qui n'est pas acquis à l'Empire ottoman. Et va se développer depuis le XVIIIe siècle, en fait, un lien important entre le pouvoir temporel d'Ibn Seoud, d'où le terme d'Arabie Saoudite après, et justement ce wahhabisme. Donc il y a un lien territorial fort pour cette doctrine qui va progressivement prendre du champ, surtout quand, en 1924, l'Empire ottoman, le califat ottoman, est bien périclite. Et à ce moment-là, vous allez avoir effectivement la confrérie des frères musulmans qui va naître en 1928, mais aussi la monarchie d'Arabie Saoudite qui va naître en 1932, 4 ans plus tard. Et finalement, la Oumma Islamia va vouloir reconstituer, si vous voulez, là où justement les musulmans peuvent s'unir, avec une interprétation extrêmement rigoriste, qui n'est pas nécessairement djihadiste, des salafistes. Et l'utilisation du salafisme, c'est aussi de dire, voilà, on a une autre manière de penser le monde. Et je dirais une chose importante aussi, puisqu'effectivement, c'est un professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné.
J'allais vous poser la question, effectivement, voilà. Allez-y. Oui, c'est pas un hasard si c'est un enseignant qui a été visé.
Exactement. Il y a quelque chose à penser de l'ordre de la connaissance. C'est une idéologie qui veut lutter contre le savoir et la connaissance occidentale. J'en veux pour preuve, par exemple, l'organisation terroriste nigériane, Boko Haram, s'est surnommée de la sorte, elle s'appelait pas comme ça, elle s'appelait le groupe de prédication salafiste avant, et elle s'est renommée Boko Haram, ce qui veut dire le livre interdit, en Haoussa, l'éducation occidentale est un péché. Il y a quand même quelque chose de très symbolique à comprendre, c'est qu'il y a une lutte, un vœu, très clair, une cause, qui a pour but de toucher le symbole de la connaissance occidentale, la connaissance des Lumières. Et le fait que ce professeur ait osé mettre en place un dispositif pédagogique pour remettre en question la fermeture d'esprit, c'est aussi ça qui a été touché vendredi dernier.
Alors, François Thuillier, il y a eu des annonces spectaculaires. Fermeture d'une mosquée qui avait diffusé une vidéo mettant en cause Samuel Paty, dissolution de différentes associations. Tout ça nous ramène à la deuxième partie de ce que vous nous disiez tout à l'heure. La réponse, est-ce que la réponse est adaptée à ce que veut la France? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut, la France, dans cette affaire?
Je crois qu'on n'en sait rien. On ignore les effets qu'on va avoir ces mesures sur la menace terroriste. Il me semble ces mesures ne seront pas d'un grand effet sur les jeunes, enfin, en tout cas, la population, justement, en quête identitaire, susceptible de commettre ce genre de crime. Il me semble qu'il serait plus urgent renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, déjà dans un premier temps, de l'évaluer. C'est-à-dire de faire une pause. Notre doctrine antiterroriste a quand même évolué ces dernières années. Je ne vais pas remonter jusqu'à les années 80, mais en tout cas les 15 dernières années, on a vu quand même un changement de doctrine extrêmement important, une inflexion sensible dans les discours, dans les pratiques, dans les changements institutionnels, dans la virilisation du discours antiterroriste, dans la valorisation du contre-terrorisme. Il y a eu un certain nombre de changements qui mériteraient à tout le moins l'adoption de la lutte contre la radicalisation d'inspiration anglo-saxonne. Donc tous ces changements mériteraient au moins, je pense, d'être évalués. Nous avons maintenant suffisamment de recul dans le temps pour en mesurer les effets sur l'efficacité de la lutte antiterroriste.
Oui, certains hommes et femmes politiques réclament une législation d'exception. La législation, vous le disiez, la législation actuelle, elle a été beaucoup renforcée, elle a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Est-ce que, selon vous, elle est adaptée?
Elle est adaptée selon les services. Les services n'en demandent pas plus. Ils estiment avoir les moyens juridiques. Ils ont été extrêmement renforcés ces dernières années. La lutte antiterroriste a quand même provoqué un surcoût des finances publiques de 9 milliards d'euros depuis 2015, avec une augmentation des moyens du renseignement de 11%. C'est énorme, mais je pense que les services estiment aujourd'hui avoir les moyens de fonctionner et de travailler correctement. Ça n'est pas vraiment le problème des services. Je pense que les services ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas éteindre les incendies qu'on allume par ailleurs, notamment dans les discours d'une certaine classe politique. Et je crois que le travail à faire est essentiellement d'apporter de la raison, justement, et de ne pas hystériser un débat dont les services sont les premiers à pâtir.
Guillaume Fard, ces annonces, fermeture de mosquées, dissolution d'associations comme le collectif contre l'islamophobie en France, est-ce qu'en faisant ça, on ne se prive pas d'une certaine visibilité de cette mouvance?
Alors c'est effectivement le grand débat. Si vous en venez à dissoudre ce que vous surveillez, est-ce que vous pouvez toujours surveiller? Parce qu'il est vrai que quand vous êtes un lieu passé sous surveillance par un service de renseignement, qu'il s'agisse pour le territoire national, la Direction générale de la sécurité intérieure ou du service central du renseignement territorial, qui est chargé plutôt des menaces dites de bas de spectre ou de plus faible intensité, il est vrai que si vous avez un lieu qui est un lieu de convergence où vous savez que se réunissent des personnes, par exemple un café ou sous couvert de partager un moment de convivialité, en réalité vous appelez à la haine et vous appelez au terrorisme, ou un club de sport où sous couvert d'une pratique sportive collective vous allez d'abord faire la prière puis faire du sport ensuite, si vous en venez à dissoudre ces lieux, vous pouvez effectivement encourir un risque de perte de la traçabilité, de perte de la surveillance. Bon, pour autant, les services de renseignement procèdent à des évaluations, suivent des personnes, et quand ces décisions sont prises de fermer tel ou tel lieu, elles le sont en concertation. Et vous me permettrez donc de dire que quand on entend dans le discours politique qu'il faudrait de façon indifférenciée fermer l'intégralité des lieux, c'est faire fi de ce travail de finesse de l'action de nos services de renseignement. Quant aux législations d'exception, législation d'exception, c'était d'abord la loi de 55 sur l'état d'urgence. Ça, c'était une législation d'exception. On a transposé 4 de ces dispositions en droit commun avec la loi du 30 octobre 2017. Dit autrement, si demain on rétablissait l'état d'urgence, il n'y aurait plus grand chose objectif à rétablir. Alors après, qu'est-ce qu'il reste en législation d'exception? Si on écoute Marine Le Pen, il faudrait...
Mais parce que c'est elle qui le réclame.
Mmh. C'est elle qui le réclame. Donc, en clair, son idée, c'est que dès l'instant où vous êtes au FSPRT, en fait, au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, c'est-à-dire les 22 000 personnes qui sont au sein de ce fichier, on devrait vous appliquer des mesures qui sont des mesures punitives. Mais encore faudrait-il, au sein d'un état de droit, pouvoir déterminer ce que vous avez fait. La base quand même du procès pénal, c'est qu'on vous condamne sur le fondement de preuves dont vous pouvez contester la nature et le mode d'acquisition. Bon, une fiche au FSPRT, il y a 8000 fiches actives au FSPRT, bon, ça veut dire que vous avez des éléments qui sont encore suffisamment, pas assez suffisamment consolidés pour qu'on judiciarise votre cas et que vous fassiez l'objet de poursuites. Donc à partir de là, ce seraient des mesures qui seraient quand même des mesures attentatoires aux libertés, et il faut quand même rappeler que ce qui distingue la démocratie des dictatures, c'est quand même le respect de la règle de droit. Donc après, ça pose une question plus politique, plus générale, c'est de quelle société veut-on ? Est-ce qu'on va se satisfaire d'une société qui, au nom de la lutte antiterroriste, restreint progressivement les libertés individuelles ? On a assez peu commenté le fait que quand on a transposé les dispositions de la loi de 55 dans la loi du 30 octobre 2017, on a transformé les perquisitions administratives en visite domiciliaire. Concrètement, une visite domiciliaire, ça veut dire qu'on vient casser votre porte. Bon, sauf que quand on regarde dans le détail le produit de ces visites domiciliaires, on trouve rarement des éléments à charge.
Oui, ça c'est quelque chose sur lequel a beaucoup insisté Gérald Darmanin. Il y a des visites domiciliaires qui se déroulent depuis 6 jours chez des gens qui ne sont pas a priori liés à l'enquête en cours. C'est pour leur mettre la pression. C'est une tactique qui est totalement assumée apparemment par le gouvernement.
Effectivement, après
pour désorganiser.
Après, on peut porter un regard plus politique là-dessus. C'est est-ce que, alors même qu'il existe un équivalent qui est la perquisition judiciaire, hein, c'est-à-dire sous le contrôle d'un juge judiciaire, est-ce qu'il faudrait sur le fondement d'une mesure de police administrative, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, aller effectivement casser la porte, parce que concrètement c'est ça, c'est cela, en cela que ça consiste, d'une personne. Et en fait tout cela vous montre que progressivement la législation antiterroriste, bien elle vient restreindre certaines libertés individuelles. Donc ça va se poser la question à terme du respect aussi de l'état de droit, parce que législation d'exception, il faut quand même traduire, hein, ça veut dire l'affaissement des libertés publiques.
François Thuillier, vous vouliez réagir à ce que vous entendez.
Je pense que le problème des libertés publiques, effectivement, est au cœur de la problématique de la lutte antiterroriste. Ceci étant, nous avons maintenant une population qui est tellement chauffée à blanc avec ses derniers attentats qu'elle est prête à renoncer à ses libertés.
C'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'on a attendu une petite semaine sur RFI avant d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites et on a essayé d'attendre que les passions retombent un petit peu, même s'il y a toujours un sentiment de colère, évidemment.
Parce que les gens considèrent que la liberté est antinomique par rapport à la sécurité. Ils estiment que à renoncer à un certain nombre de libertés publiques, ils accroîtront leur sécurité, ce qui est un débat qui est vicié dès le départ. Mais si vous voyez les sondages, la population française et européenne de manière générale est prête à renoncer déjà à un certain nombre de libertés, à mon sens à tort, mais justement les deux concepts n'étant pas antinomiques.
Anne-Clémentine Larocque, j'aimerais passer à un sujet qui est peut-être plus de l'ordre de votre spécialité. La France entretient des relations diplomatiques et commerciales proches avec des pays qui sont le foyer de l'idéologie de l'islam radical que vous avez cité, c'est l'Arabie Saoudite. Quand on est un pays comme la France, on doit parler avec chacun, mais est-ce que la France doit revoir ses relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, par exemple ?
Je crois qu'il y a une dissociation forte à faire entre effectivement ce dont on a besoin, c'est-à-dire des relations économiques, des relations qui relient les puissances entre elles dans une sphère économique, et la sphère idéologique, ce soft power saoudien qui s'est diffusé depuis les années 60-70 en Occident, en Afrique, en Asie, etc. Je pense que là-dessus, il faut être assez clair, hein, sur la thématique du financement des mosquées, par exemple. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a des holas qui ont été clairement mis. Il y a des choses qui ont été passées, même au niveau des exécutifs de ces pays, hein, qataris et saoudiens. L'idée, encore une fois, c'est de comprendre que l'objectif civilisationnel n'est pas le même. Et donc, à partir du moment où on a des objectifs différents, il faut savoir, encore une fois, les nommer et les dire. C'est-à-dire d'assumer une position où la France représente un pays démocratique avec des libertés, le pays des droits de l'homme, qui a pour fondement justement une tolérance qui ne peut pas être compatible, clairement, avec le salafisme. Et par rapport à cela, le discours, il se fait évidemment avec ces pays, mais il se fait aussi au sein même de l'Hexagone, c'est ce que je vous disais, il se fait surtout dans les lieux de socialisation des enfants notamment, parce que là je dévie un peu, mais je pense que
On est en train de parler de la loi sur le séparatisme qui va être discutée à partir du 9 décembre, là.
ce qui est important quand même, si on regarde bien les choses, c'est que là, l'incident s'est produit donc dans un collège. Vous avez des gens qui sont en cause, qui sont extrêmement jeunes, qui peuvent être tout à fait l'instrument justement de ces idéologies, hein, qui plaisent parce qu'elles sont extrêmement différentes de ce que les sociétés libérales peuvent offrir, et donc elles peuvent être attractives, très attractives pour celui qui a envie d'avoir un prêt-à-penser assez simple à embrasser, hein, et identitairement, voilà, qui est quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus attractif que ce qu'on peut proposer. L'idée, c'est justement ici d'avoir un discours extrêmement ferme sur ce que sont nos valeurs, sur ce que nous permet effectivement l'école et ce que tous les lieux de socialisation donc des enfants, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit les lieux où ils se retrouvent après les cours, les devoirs, etc., soient des lieux qui soient protégés de ces idéologies et de ces instances qui peuvent, entre guillemets, faire perdurer la confusion. La confusion des identités également, dans certains lieux et territoires en France.
Guillaume Fard, je reviens sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé l'expulsion de 231 personnes étrangères fichées pour radicalisation, donc au FSPRT dont vous parliez. Pourquoi ce chiffre de 231 ? Je suppose que les 8000 personnes qui sont en fiche active au FSPRT ne sont pas toutes de nationalité étrangère. Pourquoi ce chiffre de 231 ? Pareil, est-ce que c'est de l'affichage politique ?
Alors, peut-être d'abord, puisque vous m'interrogez sur les chiffres, quelques précisions sur les chiffres. Il y a effectivement 22 000 fiches au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et sur ces 22 000 fiches, il y a 4 111 étrangers. Sur ces 22 000 fiches, il y a aussi 851 étrangers en situation irrégulière. Sur ces 851 étrangers en situation irrégulière, il y a 661 mesures d'éloignement. Et sur ces 661 mesures d'éloignement, il y en a 428 de personnes qui ont déjà quitté la France. Donc il en reste, si on fait la soustraction, 230. On arrive à votre chiffre 231. Il y en a 180 qui sont incarcérés. Et donc, si vous faites le calcul, il vous en reste effectivement 51 à expulser à proprement parler. Maintenant, est-ce que c'est facile d'expulser ? Ça demande des accords diplomatiques, des accords consulaires. Les États n'en veulent pas toujours de ces personnes. Il faut négocier. Le ministre de l'Intérieur, quand l'attentat est survenu, il se trouvait au Maroc. Il n'était pas au Maroc pour un voyage d'agrément. Il était au Maroc pour négocier avec le Maroc le fait qu'on voulait expulser un certain nombre de ces personnes.
Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui sont, par exemple, marocains et qui sont dans les prisons françaises puissent finir leur peine dans des prisons marocaines?
C'est ça qui... Ils auront purgé leur peine, effectivement, ils seront expulsables. Mais encore une fois, il y a deux critères qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il y a le fait que le pays d'origine veuille récupérer ce ressortissant, si tant est qu'on arrive à démontrer qu'il est bien originaire du pays en question. Et le deuxième critère, c'est que on est tenu par un ensemble de conventions internationales, on n'a pas exposé des gens à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Donc, en clair, si l'origine de la personne, c'est un état en guerre, on ne peut pas le réexpédié dans un état en guerre.
On ne peut pas renvoyer quelqu'un en Afghanistan, par exemple.
Par exemple, c'est l'honneur de la France. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et donc, il y a des discours qui ne sont pas forcément très responsables, qui appellent, par facilité, par simplicité, par démagogie aussi, il faut le dire, à des expulsions massives, etc. Bon, sachant qu'en plus, comme je le disais, 851 en situation irrégulière, 661 qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement, il y a des gens qui sont sous surveillance par les services de renseignement et qu'on ne veut pas nécessairement expulser d'ailleurs, parce que si on perdait leurs traces...
Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure.
Bien sûr, ils pourraient depuis l'étranger rallier des réseaux, fomenter à nouveau des attentats contre le territoire national. Donc tout cela pour dire que ce sont des sujets qui sont quand même des sujets complexes et qu'on ne peut pas aborder avec des discours simplistes. Et parfois, hélas, on entend dans le discours politique des raccourcis qui sont dommageables parce qu'ils laissent à croire à des citoyens français que face à ces problèmes qui sont quand même des problèmes extrêmement délicats, il y aurait des solutions faciles à mettre en œuvre. Or, ça n'est pas le cas. Ça demande un travail de concertation, notamment avec les services de renseignement et les services de justice.
François Thuillier, c'est exactement ce qu'on disait au début. Il faut savoir qui on est pour agir comme il faut.
Et savoir qui ils sont, et savoir quel est ce crime, quels sont ses déterminants. Je crois que la meilleure manière de lutter contre lui, c'est d'essayer de priver le crime terroriste de sa charge émotionnelle, d'essayer de désamorcer cette bombe passionnelle qu'est le crime terroriste, si possible, en le désidéologisant le plus possible, peut-être en le déconfessionnalisant également, mais en tout cas, ramener le plus de raisons possible dans cette lutte contre un crime qu'on a du mal à comprendre.
Anne-Clémentine Larocque, est-ce que ça, on peut en parler avec les pays qui sont à l'origine de cette idéologie ? Très rapidement, je suis désolé, il nous reste que quelques secondes.
Je pense qu'il y a des pays qui sont évidemment, des pays arabes et musulmans, qui sont évidemment aujourd'hui conscients que le dialogue doit être pris, doit être là. Des pays justement donc d'Afrique du Nord avec lesquels la France a des relations particulières, qui sont là aussi justement pour rétablir le discours, même dans leur propre pays. Je prends l'exemple de la Tunisie par exemple. Vous savez que vous avez une majorité de Nahdaouis, des Nahda, donc qui étaient des islamistes, qui aujourd'hui sont majoritaires, oui, et qui luttent eux-mêmes, en tout cas dans le discours, c'est certain, contre le djihadisme.
Merci beaucoup Anne-Clémentine Larocque. Merci également à vous Guillaume Fard et François Tuillier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit avec Philippe Le Caplain. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.